En quête de sens, vous est présenté par la Mutuelle Saint-Martin. Mutuelle santé efficace et fraternelle depuis 75 ans. En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
Les cadres de plus de 50 ans se sentiraient souvent mal aimés tant ils sont confrontés à des stéréotypes tenaces dans le monde du travail. Malgré des années d'expérience, des responsabilités de manager par exemple, l'heure est à l'âgisme. Et donc la tendance pour les recruteurs, ce sont les jeunes, peut-être parce qu'ils sont plus dociles ou malléables. En tout cas, les plus de 50 ans souffrent de plus en plus d'un manque de reconnaissance de la part des entreprises, les recruteurs estimant notamment qu'ils sont par exemple inadaptables ou updated. Alors pourquoi est si difficile de trouver un travail après 50 ans? Les solutions, je l'espère, dans cette émission Quête de Sens, que j'ai la joie d'animer chaque jour. Frédéric Centra est avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir. Vous avez quitté un emploi de cadre supérieur dans l'assurance en 2014 pour devenir entrepreneur à 57 ans.
Alors j'ai quitté à 48 ans.
Oui.
Et je suis restée entrepreneur pendant une dizaine d'années. Et à 57 ans, je suis redevenue salariée et entrepreneur. Et,
wow.
J'ai aujourd'hui 58 ans plus qu'et demi, puisque dans deux semaines, j'aurai 59 ans.
Bah vous ne les faites clairement pas. Alors là, franchement, chapeau, lauréate en 2013 du Trophée Argus de l'assurance, de la femme de l'année dans l'assurance. Hein. On peut le préciser en ce début d'émission. Vous avez été identifiée en 2014 par le magazine Forbes, hein, c'est ça?
Oui, j'ai fait partie du palmarès des femmes Forbes 2020.
Les plus influentes, c'est ça, hein.
Alors, influente, inspirante, je ne sais pas. Mais
j'aime bien
cas, voilà,
hein,
c'est fait. Un petit graal sympathique.
Voilà, vous êtes conférencière et donc vous venez aujourd'hui accompagnée de votre ouvrage « Réentreprendre sa vie après 50 ans ». On est bien dans notre thème hein, chez Erol. Merci Frédéric d'être là, Frédéric Centra. Nous sommes également en compagnie de Frédéric Jesque. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir, approchez-vous bien de votre micro.
Oui, vous ravi avez... d'être avec vous.
Eh ben, on est ravi de vous entendre, vous les héroïnes, les héroïnes des temps modernes où il est dur, il est difficile aujourd'hui de percer quand on a plus de 50 ans apparemment, selon les sondages et selon les dires des uns et des autres qui sont concernés par cette souffrance, hein. C'est réellement une souffrance aujourd'hui. Vous avez été dirigeante pendant 30 ans au sein de groupes médias, au service de l'intérêt général, en tant que directrice générale du MEDEF 13, de la Fédération Réseau Entreprendre, de la Ligue Nationale contre le Cancer, rien que cela. Vous avez fondé et vous avez dirigé USCOA, un cabinet expert en accompagnement de la transformation durable, exécutif coach HEC, conférencière. Vous conseillez et formez des dirigeants et des managers. Vous êtes l'auteur donc du guide du dirigeant responsable et votre dernier ouvrage en lien exactement avec notre émission. Le choc des générations n'existe pas pour en finir avec les stéréotypes et donner sa juste place à chacun au travail. Il y a du boulot aux éditions Erol. Et enfin, nous sommes... j'ai oublié que vous étiez présidente. Ça, c'est quand même l'essentiel. Hein, on peut dire même
oui,
que ça.
C'est vrai.
Présidente que vous êtes de l'association Senior Food. Qu'est-ce que c'est?
C'est une association citoyenne que j'ai créée il y a 3 ans maintenant, après avoir été victime de la discrimination par l'âge. Et c'est une association qui porte une vision positive de l'expérience et de la séniorité dans le monde du travail.
Alors espérons que beaucoup de DRH et de RH et de services RH et de managers et de chefs d'entreprise nous écouterons, évidemment, et vous écouterons. Didier Gutmann, enfin. Bonjour Didier.
Bonjour.
Vous devenez un fidèle pour toutes ces questions. Vous êtes toujours coach et conférencier, de nombreux ouvrages à votre actif. On peut mentionner « Trouver sa place au travail » et puis « Je ne suis pas bien au travail, je change quoi ?» chez Erol. Alors moi, je me rappelle, j'ai envie de commencer par vous poser cette question, Didier Gutmann. Vous évoquiez, la dernière fois que vous êtes venu, c'est quelque chose que vous évoquiez assez régulièrement dans cette émission. Souvent, il y a une... Alors, avant de parler d'un phénomène, puisque c'est quand même un phénomène sociétal et global, des difficultés de trouver un travail après 50 ans, mais quand même, vous parliez d'une histoire d'alignement. Parfois, on n'arrive pas à trouver un travail après 50 ans parce qu'on n'est pas aligné. Moi, je me rappelle que vous m'aviez dit ça à la fin de l'émission,
oui,
la dernière fois.
Oui, oui, je pense que c'est vrai à tout âge. La question de l'alignement, c'est une question fondatrice en termes de place au travail, mais ce n'est pas une question d'âge. Dans Trouver sa place au travail, j'avais commencé dans la première chose que j'écris dans Trouver sa place au travail, c'est de dire j'ai accompagné des centaines de personnes, j'ai suivi des milliers de trajectoires, aussi bien en recrutement qu'en conseil, qu'en accompagnement individuel. Les gens qui trouvent du travail facilement, c'est pas les plus beaux, c'est pas les plus intelligents, c'est pas les plus sociables, c'est pas les plus hystériques, c'est pas les plus diplômés, c'est ceux qui sont le plus cohérents. Wow. Entre ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, ce qu'ils disent qu'ils aiment, ce qu'ils disent qu'ils veulent faire. Et ça, c'est vrai à n'importe quel âge. Dès qu'il y a désalignement, dès qu'il y a incohérence, trouver du travail devient plus difficile.
Hmm. Est-ce que ça vous parle, mesdames? J'ai l'impression que ça dit quelque chose à notre ami Frédéric.
Bah oui, forcément, puisque... Et je pense que pour le coup, à la séniorité, on a peut-être davantage cette capacité. C'est peut-être la différence par rapport à l'âge. C'est qu'avec la maturité, l'expérience, on a peut-être plus la capacité de savoir justement là où est notre juste place. Moi, j'appelle ça être à sa juste place, en fait. Et c'est vrai, quand on est à sa juste place, et on va y mettre de la passion, de l'envie, de la dynamique. Et donc, forcément, l'attractivité de notre employabilité va être plus forte.
Mais vous avez...
Moi, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord avec ça. Et donc, c'est pour ça que parfois, quand on a plus de mal à trouver du travail après 50 ans, c'est peut-être, par contre, qu'on s'est laissé désaligner par les circonstances. Ça peut être, en tout cas, une des raisons. Ce qui fait que souvent, je le dis souvent, mais c'est vrai, je l'ai encore reconstaté récemment sur des exemples très précis de gens que j'accompagne. Par exemple, un licenciement individuel.
Oui.
Un pur licenciement individuel à n'importe quel âge. On ne parle pas de licenciement collectif. Hein. On ne parle pas de l'usine qui ferme, on ne parle pas du COMEX qui se fait débarquer dans son ensemble parce que l'actionnaire a changé. Mais souvent, un licenciement individuel, il est l'écho, en réalité, d'un désalignement intérieur qui n'a pas été suffisamment entendu.
Ouais.
En fait, j'aime plus ce que je fais, je suis usé, j'en ai marre, ça m'amuse plus, ça fait 20 ans que je le fais. Et en réalité, au fond de moi-même, je n'ai plus envie de continuer. Parfois, si ça, je ne l'ai pas entendu, si je ne l'ai pas remis en question, si je ne l'ai pas remis sur la table, c'est peut-être l'employeur qui va s'en apercevoir.
Ou échanger d'échelle de valeur, parce qu'on devient sage avec l'âge, paraît-il. Donc peut-être qu'un changement d'échelle de valeur. On me dit ça l'autre fois, que par exemple, on peut être intéressé par avoir une grosse voiture, un chien, une maison et 5 enfants, et 3 enfants, et des beaux bijoux pour sa femme. Et enfin, manger le cliché absolu. Mener une très belle carrière pour les copains et la famille. Et tout à coup, je ne sais pas, à 52 ans, comme par hasard, on se fait licencier, parce que comme par hasard, on traverse peut-être en ligne de fond une espèce de... Je sais pas, moi, un décalage qui se crée, quelque chose, c'est ça ?
Oui, c'est possible. C'est possible qu'à un moment donné, on soit rattrapé par le travail intérieur qu'on n'a pas fait.
C'est ça.
Et que, par exemple, moi, je vois des gens qui ont 45, 50 ans, que j'accompagne en individuel sur des questions de place au travail, et certains, et notamment les mieux diplômés, ceux qui ont suivi les voies les plus royales.
Incroyable, hein ?
Donc, qui ont suivi les voies les plus légitimes, à un moment donné... s'aperçoivent qu'en réalité, dans leur vie, ils n'ont jamais pris une décision personnelle.
Ouais.
Ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Ils ont fait ce qu'il était normal de faire pour trouver au travail une place légitime, reconnue, bien valorisée, bien rémunérée.
Frédéric Jess, qu'est-ce que vous êtes passé chez le psy ?
Pas du tout. Moi, je disais tout à l'heure, j'étais une Gen Z depuis 30 ans. Moi, j'ai toujours été slasheuse et j'ai toujours aimé faire beaucoup de choses différentes. Donc, c'est pas très, très nouveau. Il y a quand même aussi des sujets de tempérament. Tout n'est pas lié à l'âge. Après, pour revenir sur cette maturité, peut-être de savoir ce dont on a envie, moi, ce que je vois aussi chez les adhérents, notamment de l'association Senior for Good, c'est que, en fait, il y a un âge, peut-être aussi, et Frédéric, tu diras peut-être la même chose, toi qui as vécu aussi ça dans les deux sens, hein, salariat, entrepreneuriat. Il y a un âge aussi où on est moins prêt peut-être à tout accepter. C'est vrai qu'on a suivi des rails, on a suivi un chemin. Il y a quand même, et ça on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup des jeunes hein, qui ne sont pas fidèles dans l'entreprise. Mais il y a énormément de cinquantenaires aujourd'hui qui lâchent tout, qui quittent les grandes entreprises, mais d'eux-mêmes, hein, qui sont les premiers à réclamer en fait un départ, justement pour aller chercher cette cohérence, cette envie de sens, de contribuer autrement.
Mais sauf que c'est là où parfois le bas blesse aussi, on pense à eux, parce que très fort aussi, ils s'imaginent qu'ils vont trouver comme ça parce qu'ils ont plein d'expérience. Ils ont cumulé plein de beaux diplômes, de belles récompenses, de belles primes, etc. Et en fait, patatras, on veut plus d'eux.
Et c'est là que ça peut être compliqué parce que, en fait, je dis souvent que la responsabilité, elle est partagée. Hein. Il y a la responsabilité de la personne, bien sûr, à travailler sur soi, à savoir ce qu'il a envie de faire. Il y a la responsabilité un petit peu des pouvoirs publics aussi, parce qu'on ne peut pas dire on travaillait plus longtemps et ne rien faire pour aider les gens en fait, à continuer à travailler après 55, 60 ans. Et puis, bien sûr, il y a la responsabilité de l'entreprise. Parce que très clairement aussi, mais on en parlera certainement tout à l'heure, on fait quand même face à une discrimination par l'âge, notamment dans notre pays, un peu partout, mais spécifiquement en France, qui est extrêmement forte. Notre société est très
jeuniste.
Et c'est très difficile, effectivement, de se faire embaucher, même avec un très beau parcours et même avec un très bel alignement. Ça, j'ai beaucoup d'exemples aussi de gens qui n'y arrivent pas.
Frédéric Jasca, à vous la parole. On ne vous a pas beaucoup entendu depuis le début.
Alors moi, c'est Frédéric Jacra.
Frédéric, pardonnez-moi.
Alors moi, je voulais rajouter quand même
quelques... Le prénom, c'est pas facile. Hein. Oui, bref, voilà. On va s'en sortir.
Alors moi, en fait, ce que je voulais rajouter, parce que les personnes peuvent avoir de l'envie, quel que soit leur âge, mais il faut aussi de savoir est-ce qu'elles ont les compétences qui sont demandées au moment où l'entreprise recrute.
Bien
donc
évidemment.
Il y a quand même, tout n'est pas lié non plus à l'extérieur. Et une carrière, ça se prépare à tout moment, pas juste quand on a plus de 50 ans. L'adaptabilité, la formation, il y a celle qu'on reçoit et puis il y a celle qu'on va chercher. Est-ce que soi-même, on s'est remis en question assez régulièrement? Et l'adaptabilité permet de répondre aux besoins d'une entreprise à un moment donné par rapport aux compétences qu'on a. Si on a acquis une expérience considérable, qu'on a des envies parce qu'on aspire à telle ou telle chose, mais que là où on habite et on a envie de déménager, mais il n'y a pas l'entreprise qui va nous recruter, là ça pose question. Donc il faut aussi qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on est capable d'apporter, notre alignement dont Didier parlait, mais il y a également le besoin de l'entreprise, si tant est qu'on veut devenir salarié.
L'entreprise a peur d'embaucher tes plus de 50 ans, très sincèrement, Didier Gutmann ou pas ? En France ?
Oui, bah, les grandes entreprises, elles n'en embauchent globalement pas. Sauf dans des positions très particulières, ou sauf dans des métiers très pénuriques. D'accord. Les grandes entreprises ont tendance, aujourd'hui, effectivement, à ne pas en embaucher. Dans des TPE, dans des PME, les questions étant beaucoup plus individuelles, par nature, elles peuvent se poser différemment.
Il y a une raison particulière, vous dites qu'en France c'est le cas, pas aux États-Unis, pas en Allemagne, en Espagne, j'en sais rien, j'ai pas été chercher ailleurs.
Dans les pays anglo, moi j'ai pas les statistiques, mais je pense que Frédéric en a beaucoup
vous
plus que moi.
Vous allez nous en parler, Frédéric
qui pourra vous répondre. Je pense que les pays anglo-saxons licenciant plus facilement, recrutent plus facilement, donc gèrent plus facilement des mobilités ouvertes, en positif comme en négatif. On le sait bien, aux États-Unis, on fait son carton en deux minutes, mais donc ça permet de réembaucher aussi facilement.
C'est juste.
Dans un pays de droit social protecteur comme la France, les entreprises sont toujours plus frileuses de recruter de façon générale, parce qu'elles auront beaucoup plus, de mal à faire partir les employés si elles en ont plus besoin ou s'ils ne font pas l'affaire. Mais après, il faut bien voir, dans des grandes organisations, des très grandes organisations, il y a des limites d'âge de fait, qu'elles soient écrites ou pas, parce qu'aujourd'hui, il est devenu interdit de les écrire trop fort. Mais il y en a. Je connais des grandes organisations dans lesquelles, de toute façon, après 50 ans, on ne vous recevra pas.
Même 45.
C'est dingue. Quelle est votre analyse ? La raison, l'envie de diagnostiquer les choses un petit peu soir.
Il y en a plusieurs, Frédéric, en fait. C'est vrai qu'on fait partie des mauvais élèves de l'Europe sur le sujet. Clairement, on est dans le dernier pays en termes d'emploi, des taux d'emploi des plus de 55 à 58%, et des plus de 60 ans, on chute à 38%.
Wow.
C'est assez dramatique. Il y a plusieurs raisons à ça. Bien sûr, on a une société qui est quand même assez jeuniste, et ça, c'est assez, j'allais dire, global. On voit ça aussi dans d'autres pays. L'exaltation des valeurs soi-disant de la jeunesse, donc en fait, comme la créativité, le dynamisme, l'énergie, etc. Donc il y a tout ce volet, on va dire, de culture sociétale qui génère des stéréotypes, qui eux-mêmes génèrent des préjugés et qui sont bien sûr renforcés par nos propres biais cognitifs individuels. Il y a aussi la culture française et notamment les politiques publiques de l'emploi, puisque depuis les années 80, les politiques publiques de l'emploi en France ont beaucoup favorisé le départ des seniors en pré-retraite, en disant vous allez sortir vos vieux pour recruter des jeunes. On a toujours pensé qu'on allait favoriser l'emploi des jeunes grâce à ça, ce qui n'a jamais fonctionné, mais c'est vrai que les dispositifs d'accompagnement et d'aide publique ont beaucoup favorisé le départ précoce, en fait, des gens à la retraite. Ce qui fait que les grandes entreprises, notamment, elles ont pris l'habitude de 50-55 ans égale départ.
Ouais.
Et donc, on a aussi cette culture, en fait, qu'aujourd'hui, on doit absolument complètement modifier. Et les entreprises n'ont pas encore totalement conscience de ce qui est en train d'arriver avec la transition démographique, qui est déjà là. hein, et qui va être une catastrophe pour la performance
Pourquoi
des entreprises demain.
Racontez-nous en deux mots.
Bah, tout simplement parce qu'on connaît un vieillissement très fort de la population, il y a moins en moins de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Ils vont être de moins en moins nombreux. Dans moins de 10 ans...
Avec la baisse de natalité aussi.
Bien sûr. Dans 10 ans, les plus de 45 ans seront majoritaires parmi les actifs. Donc, quelque part, le sujet se posera plus. Sauf que les entreprises qui n'anticipent pas, qui aujourd'hui ne recrutent pas de personnes expérimentées, ne gardent pas leurs expérimentés employables, formés, engagés, eh bien, ils vont avoir un déficit de ressources qualifiées énorme. Toutes les études prospectives le montrent.
Vous savez,
c'est pas dans 50 ans.
Je pense à la médecine. Ils sont à part ou ils sont...
Partout, ils sont... Bah c'est pareil.
C'est l'horreur ce que vous nous racontez pour la médecine, vous imaginez?
En plus, il y a les quotas, alors la médecine, c'est encore pire.
Il ne faut pas être malade dans 10 ans. Frédéric Centra, vous partagez ce point de vue, diagnostic de...
Oui, alors Frédéric parlait de la formation, ça c'est extrêmement important, la formation des seniors qui sont en entreprise, qui... il y a quelques temps, se disait « Oh, je vais partir à la retraite ou en pré-retraite » et ne se voyait pas proposer des programmes de formation, voire eux n'y allaient pas, ne s'y inscrivaient pas en disant « Ça vaut peut-être le coup. »
Ça sert à rien.
Voilà. Alors que là, les choses ont changé. Et il y a des programmes des grandes entreprises, certaines ont signé des chartes de telle sorte à dire « Nous avons des programmes de formation pour les plus de 50 ans, nous nous engageons à ci, à ça, etc. » parce qu'elles savent qu'elles vont les garder plus longtemps et si possible, engager en leur offrant d'autres perspectives d'évolution au sein de l'entreprise s'ils sont déjà là. Et pour ceux qui ne sont pas dans l'entreprise et qui ont envie de retourner en entreprise, il y a également des programmes de formation pour essayer d'adapter les compétences qu'ils peuvent avoir aux besoins des entreprises qui recrutent. Moi, je travaille actuellement dans l'univers du service à la personne et là, on est plutôt dans des secteurs où il y a des pénuries oui. de personnel, que ce soit au niveau de l'encadrement, au niveau des intervenants, voire dans les structures de care. Et là, l'âge n'est pas un sujet. La couleur de peau n'est pas un sujet. Le lieu d'habitation n'est pas un sujet. Et donc, là, on a une diversité assez générale.
Vous êtes battus, vous avez l'impression, vous deux, mesdames, vous avez l'impression de vous être battus pour arriver à ce que vous êtes, à ce que vous avez parvenu, vous êtes parvenu, pardon, oulala. On est lundi à atteindre du haut de vos 57 ans, après 50 ans. Ça a été très dur, très sincèrement, s'il vous plaît, Frédéric Jasque.
Moi, pas vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, puis j'étais en direction générale, et c'est vrai que sur des postes de dirigeant, c'est un petit peu plus facile d'être mature, on va dire, hein. On apprécie davantage la séniorité. J'ai quand même connu, moi, ce qui m'a fait me spécialiser sur ce sujet et me mobiliser aussi pour lutter contre ça, contre cette situation, c'est que, voilà, en début 2022, j'ai 56 ans, je dirige la Ligue contre le cancer, j'ai accompagné Axel Kahn jusqu'à son décès, j'accompagne le successeur, j'ai envie de sortir du cancer, je suis intéressée par un job, les consultants emballés par mon profil, ils me disent « Ah non, mais c'est elle qu'il faut, l'employeur ne veut pas me voir. » Et quand je demande pourquoi il ne veut pas me voir, vu que je coche toutes les cases, on me répond bah, « Parce que vous êtes trop vieille. » Et c'est comme ça que j'ai découvert ce sujet. Donc oui, ça existe.
C'est incroyable.
Alors, évidemment,
quand même.
Après, j'ai retrouvé un job et puis finalement, c'est moi qui ai dit « Je vais entreprendre, je suis partie. » Mais parce que j'avais la chance, quelque part, certainement d'être alignée, comme disait monsieur tout à l'heure.
Ouais.
Et puis de savoir où je voulais aller.
Et puis
d'être un peu slasheuse, de faire plein d'autres choses, etc. Mais moi, je vois les adhérents qui sont souvent des cadres, souvent avec des très beaux CV dans notre association. C'est terrifiant. C'est vraiment dramatique. Des gens qui ont des très beaux parcours. Ah, quand vous avez des très beaux parcours, vous êtes reçu en entretien. Vous êtes même en shortlist. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais vous n'êtes jamais choisi, vous n'êtes jamais embauché. On a quand même un vrai sujet. Et statistiquement, on le voit dans les taux d'emploi et puis dans le nombre de seniors qui pointent au chômage, hein, de toute façon.
Analyse de Didier Goodman juste après Charles Aznavour. Mais en merde, on y est. Pas tout à fait, j'espère jusqu'au bout de l'émission. À tout de suite.
En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir,
oui.
pour gravir
oh oui,
le sommet. En
oubliant
souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Accord perdu,
j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait,
abstrait, en sacrifiant ses darons. Je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage,
tout.
Mes amours faisaient très bien l'amour.
Ah oui.
Mes emmerdes étaient ceux de notre âge,
bien sûr.
Où l'argent c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier,
fier,
je suis fier,
fier.
Entre nous,
entre nous, je l'avoue.
J'ai fait ma vie, mais il y a un mais. Je donnerai ce que j'ai,
pas tout à fait,
pour retrouver,
je l'admets,
mes amis, mes amours, mes emmerdes, mes relations,
ah mes relations,
sont
vraiment sont
haut placées,
très haut placées,
décorées,
très décorées,
influents,
très influents,
bedonnants,
très bedonnants,
des gens bien,
très très bien,
ils sont sérieux,
trop sérieux,
mais près de
tout.
J'ai toujours le regret, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance,
oui.
Mes amours avaient le corps brûlant,
oh oui.
Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense,
bon.
Avaient peu d'importance et c'était le bon temps.
Les canulars,
les pétards,
les folies,
les orgies,
les jours du bac,
le cognac,
les refrains.
Tout ce qui fait,
je le sais,
que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Et voilà pour Chazaz. Aznavour, pardonnez-moi, Charles Aznavour. Pourquoi est-il si difficile de trouver un travail après 50 ans ? Nous en parlons aujourd'hui avec Frédéric Cintra, Frédéric Jesque et Didier Gutmann. Didier, analyse et réaction, diagnostic de ce que vient d'évoquer cette situation, ces situations d'agim si répandues en France, c'est quand même hallucinant, alors que le CV de Frédéric est époustouflant. C'est quand même hallucinant, hallucinant.
Je crois qu'on vit sur un... En fait, on vit encore, parce que les modèles dans lesquels des générations entières ont vécu, on la vit dure. On a des modèles intérieurs de représentation du monde qui évoluent pas si facilement. Alors, je pense que la question de l'âge pose un double problème. D'abord, on vit encore, quelque part très étrangement, avec l'idée qu'à 50 ans, on serait vieux. C'était vrai au 19e siècle. Oui, au 19e
c'est
siècle,
vrai.
À 50 ans, on était vieux, compte tenu des espérances de vie, et puis compte tenu de la difficulté des métiers manuels, ou un fermier qui avait commencé à 11 ans à garder
Il mourait à 40 ans, quoi.
À 50 ans, effectivement, s'il était encore vivant, il était réellement vieux, et effectivement, c'était bien qu'il s'arrête de travailler, voilà. si tant est que ce soit possible. Mais aujourd'hui, on arrive à 50 ans, des cadres arrivent à 50 ans, dans un état de forme, de fraîcheur, de dynamique, de compétence, de maturité, qui fait que
la question, du sport tous les matins, etc.
La question ne devrait pas se poser. On a l'impression que 50 ans, c'est encore une espèce de limite.
Et même à 60, hein, d'ailleurs.
Oui,
mais oui.
Il y a une espèce de date limite de conservation qui fait qu'à partir de ce moment-là, il y aurait la compétence serait périmée.
Oui, exactement.
Honnêtement, c'est absurde, mais on voit bien que le modèle, il a encore la vie dure et que même quand on dit 50 ans, il y a des choses qui disent « Ah oui, c'est vieux ».
Oh, attention.
Non, avec une espérance de vie moyenne qui est au-delà de 80, pour des gens, notamment pour des professions libérales, a fortiori, ou des cadres, non, ça ne l'est pas. Mais on a encore cette représentation-là. Donc je pense qu'il y a un verrou à faire sauter en termes de représentation de ce qu'est l'âge.
Sans compter qu'avec l'allongement de la durée du travail et de la durée de vie en bonne santé, à 50 ans, il va te rester 25, voire un tiers de ta carrière professionnelle à faire.
Ouais.
Donc c'est d'autant plus absurde.
Ben oui, d'autres fois. Et regardons des gens de 50 ans, l'état dans lequel ils sont, la forme dans lequel ils sont, la maturité avec laquelle ils sont capables.
C'est comme s'il y avait un complot de tous les dirigeants, les recruteurs. C'est quand même bizarre, Frédéric Cintra.
Qui sont souvent seniors.
Mais oui, c'est ça. Vous êtes peut-être pour ça alors, j'en sais rien. Après,
et justement, moi, effectivement, on a encore, quand on arrive à 50 ans, un tiers de sa carrière. Et je vais prendre le sujet féminin. Quand on arrive, effectivement. Alors, il y a la représentation à plus de 50 ans des femmes avec les éventuelles modifications biologiques, etc., etc. Et puis tout l'imaginaire à partir de là. Alors que les femmes, et notamment vous parliez des femmes cannes, donc certaines qui ont suivi un certain nombre d'études, se disent « c'est bon, maintenant j'en ai sous le pied, je peux me consacrer à ma carrière, je peux y aller, j'ai c'est du vrai. Temps, j'ai du réseau, je peux aller le soir, etc. etc. » Non pas qu'elles ont mis entre parenthèses avant, mais peut-être qu'elles ont été un peu plus modérées dans tout le networking, dans le fait d'aller voir les allées, de se positionner, etc. Et c'est là qu'on peut leur dire « ah ouais, mais attends, t'as vu ton âge maintenant ?» Alors moi, je vais prendre mon expérience à l'instar de Frédéric, qui était un peu différente, puisque moi, en fait, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat après 48 ans, au moment où j'ai été plutôt mise en valeur avec les prix que vous avez cités pour me présenter. Et je me suis dit, moi, si je le fais pas maintenant, peut-être que je le ferai pas, parce que là, j'ai encore de l'énergie, je suis dans la lumière, et je suis salariée, mais bon, moi, ceux que j'admire, ce sont ceux qui ont créé, qui ont pris des risques et qui ont créé de la valeur et qui ont créé des jobs. Est-ce que je suis capable de faire ça? Et en fait, avant de le faire, je me suis dit, est-ce que j'ai un filet de sécurité? Et mon filet de sécurité, c'était mon réseau. Parce que j'étais à l'âge où j'avais connu un certain nombre de personnes qui m'avaient expérimenté dans l'entreprise ou dans des relations client-fournisseur. Et je me disais, si mon entreprise ne fonctionne pas, j'aurais peut-être ce filet. En fait, j'ai développé, moi, mon activité, j'ai écrit des livres, j'ai fait un certain nombre de choses, et finalement, j'ai découvert que j'aimais bien faire les deux, j'aimais bien retrouver l'entreprise et retrouver les collègues, j'aimais bien être entrepreneur et avec cette liberté d'organisation du temps. Et il se trouve que, finalement, j'ai eu plus de chance, parce que c'est grâce au réseau, dans la rue, j'ai retrouvé quelqu'un que j'avais rencontré dans ma vie professionnelle il y a 15 ans, qui venait de racheter une start-up, qui savait pas quel âge j'avais, et peu importe, c'était pas le sujet, mais il savait que, compte tenu de ce que j'avais fait avant, je pouvais lui apporter une compétence par rapport à l'activité qu'il développait. Il venait de racheter une start-up et il m'a demandé de prendre la direction générale de cette start-up qui était liée à l'aide aux personnes, ce qu'on appelle le care management. Et en fait, il savait pas quel âge j'avais, c'était pas son sujet, mais il savait que j'avais fait ça il y a 10 ans et qu'a priori je pouvais être utile.
Alors évidemment c'est un secteur un peu à part, mais c'est vrai que dans les secteurs plus commerciaux ou voilà d'autres secteurs professionnels assez concurrentiels, Didier Gutmann, c'est marrant parce que Frédéric Jesque évoque dans son livre Passer du nous face à eux à nous unique ensemble. Est-ce qu'on va y arriver un jour, Didier Gutmann, ça de se rendre compte qu'en fait c'est une guerre vaine, hein, les jeunes contre les vieux, quoi.
C'est une guerre vaine, mais c'est une guerre qui est à peu près aussi vieille que l'humanité aussi.
Donc, ah oui, c'est vrai ou pas?
Bah, je crois, oui, je pense qu'il y a quand même toujours la question générationnelle, c'est quand même une question en soi et c'est pas une question récente. Alors elle se rejoue au travail, elle se rejoue peut-être en ce moment au travail de façon un peu plus tendue qu'à d'autres moments ou à d'autres époques, mais c'est quand même une très très vieille question.
On a parlé que les plus de 50 ans ne s'adaptent pas, hein. C'est un peu ça, hein, l'idée.
Oui, enfin, je ne sais pas s'ils sont toujours très adaptables.
Bah, c'est
non
ça
plus,
la question bizarre.
Je pense que, et là encore, l'adaptabilité, c'est une soft skill. Il y a des gens très adaptables à tous les âges, et on le voit autour de cette table, il y a des gens qui ne sont pas très adaptables, même très jeunes. Ouais. Tout est possible en la matière. Ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le modèle, je parlais de modèle tout à l'heure, on a une question de représentation de l'âge, collectivement. On a aussi quand même à voir avec une question de représentation de ce qu'est une carrière. Mmh. On vient quand même d'un modèle, et là je vois Frédéric Jess qui hoche la tête, qui opine en face de moi, elle sera d'accord avec moi, on vient d'une représentation quand même du monde plus statique qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les grandes organisations notamment, le contrat ancien au travail, c'était loyauté versus sécurité. Vous êtes loyal à l'organisation, et l'organisation va vous trouver du boulot jusqu'à la retraite. Ce modèle-là, il est terminé. Mais à l'intérieur de nos têtes, c'est pas toujours si vrai que ça. Donc je pense qu'il y a des gens qui font rentrer dans des grandes organisations en se disant, bah, c'est bon, jusqu'à la retraite, je serai protégé quelque part. Je vais pouvoir avancer régulièrement et je serai couvert. Or, l'évolution du monde, l'évolution de la concurrence, l'évolution des modèles organisationnels, l'anglo-saxonisation des modèles d'entreprise fait que c'est de moins en moins vrai. Et donc, effectivement, il va falloir se réinventer de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Et que, pour certains, effectivement, cette question-là n'avait pas été envisagée comme telle à l'origine et peut être un petit peu difficile à aborder.
Ouais, Frédéric Gès, que vous opinez
oui,
du chef?
Bah oui, j'ajouterais en fait, en plus qu'on a, eu cette culture, on a cette culture en France de la carrière ascendante.
C'est-à-dire
Eh bien, on progresse tout au long de sa carrière et il faut toujours avoir un meilleur poste, gagner plus, faire mieux, être manager. C'est mieux d'être manager que d'être technique, etc. De plus en plus aujourd'hui, avec l'évolution techno, etc., enfin, tout ce qui se passe, on a besoin d'aller très vite. Et donc, les carrières aujourd'hui, je pense qu'on doit apprendre aussi, et les entreprises doivent apprendre aussi à gérer des parcours de vie professionnelle avec des carrières qui peuvent bouger. On peut un jour être cadre dirigeant et puis redevenir expert et puis peut-être demain reprendre du management, etc. Et ça, c'est pas beaucoup dans la culture française. Et on voit d'ailleurs, par exemple, avec des pays comme l'Allemagne ou les pays, certains pays scandinaves qui sont bien moins agistes que nous, ils ont beaucoup moins cette difficulté-là. Souvent, ils ont moins cette culture de la carrière ascendante. Ils ont plus la capacité à prendre des postes de gestion de projet, etc. Et donc, on a un petit peu, hein, ça, je pense que ça vient un petit peu renforcer ce que vous disiez. On a un petit peu toute cette culture du travail. Avec aussi cette évolution du rapport au travail, hein. Il ne faut pas oublier que l'évolution, tout ce qu'on dit aujourd'hui sur l'évolution du rapport au travail, le fait que le travail n'est plus l'étoile polaire de la vie, etc., qu'on veut un équilibre de vie, qu'on veut de l'épanouissement, on dit souvent c'est les jeunes qui veulent ça.
Absolument.
Mais quand on regarde les études scientifiques et les méta-analyses qui ont été réalisées sur le sujet, on se rend compte que pas du tout. En fait, cette évolution du rapport au travail, elle est transgénérationnelle. Alors, c'est vrai que nos jeunes le disent peut-être un peu plus haut que les seniors, parce qu'ils ont plus l'habitude de, bah, d'ouvrir la bouche, hein, parce qu'on les a éduqués dès le biberon. Hein, ils ont eu le droit de dire ce qu'ils avaient envie de dire. Voilà, les méthodes d'éducation ont bougé, les réseaux sociaux, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font que les jeunes, peut-être, vont parler plus facilement. Encore que ça dépend des jeunes. Hein. Moi, j'en ai deux chez moi qui ne parlent pas beaucoup.
Mais vous voulez dire que les 50 ans et plus ne se tuent plus à la tâche comme jadis,
hein. Ah, mais non, plus du tout non plus. En fait on a toujours l'impression, et c'est pour ça que moi, je me bats beaucoup contre ces fameuses cases générationnelles X, Y, Z qui enferment en fait, hein, qui enferment les générations dans des stéréotypes et qui finalement viennent renforcer ces discriminations. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'agisme, c'est envers les seniors, mais c'est aussi envers les plus jeunes. Parce que les plus jeunes, ils sont fainéants. Ils ne savent plus bosser, voilà. Ils ne respectent plus rien.
C'est ce qu'on dit beaucoup.
Voilà. Et les vieux, ils ne savent pas s'adapter, ils sont rigides, ils sont déconnectés. Oui, mais c'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est vraiment ces sujets. En fait, il est là, le sujet, en réalité. C'est pour ça qu'il est dur à dégommer. Hein. Quand on dit qu'il faut changer de regard,
bah, c'est
super
hein.
dur.
C'est
en
cases, ouais, là,
exactement.
En ce moment, on est tous en permanence.
Et il faut absolument qu'on arrive à sortir de ça, parce que tant qu'on ne sortira pas de ça, eh bien, on aura toujours de la discrimination, notamment à l'embauche. Moi, ce que je vois depuis 2 ans, hein, avec la réforme des retraites, le sujet a été quand même mis sur la table. On en parle énormément. Alors moi, j'avoue qu'il y a des fois, j'en ai un peu marre, parce que les tables rondes, les livres blancs, les entreprises qui lavent plus blanc que blanc sur les seniors, on en a beaucoup. Mais en réalité, les chiffres ne bougent pas tant que ça. Donc, en termes d'action, c'est pas encore ça. Mais en tout cas, le sujet a été mis sur la table. Moi, je vois beaucoup les entreprises avec lesquelles je travaille, côté activité, côté USCOA, sur ces sujets-là. Il y a une prise de conscience de l'importance à faire se réengager les seniors dans leur entreprise, à les garder motivés, engagés, employables, à les former. Génial. En revanche, pour l'instant, ça ne bouge pas sur le volet de l'embauche. Et moi, j'ai même des clients des très belles boîtes qui me disent « Non, Frédéric... Non, ne nous demandez pas quand même de recruter des plus de 45 ans.
C'est...
Hein.
Non, mais c'est une blague.
Ah non, ça, notre direction générale ne l'accepte pas.
Plus de 45 ans.
Ah oui, moi, je l'ai entendu encore très récemment, avec une boîte avec laquelle je travaille sur plein de projets intergénéraux, tous plus formidables les uns que les autres.
Est-ce que c'est... Alors, c'est la psycho de comptoir, ce que je vais vous suggérer, soumettre, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur de chacun, une peur partagée collectivement de la folie galopante de toutes les technologies, de tous ces chantiers dans tous les domaines, en termes d'amour, en termes d'éducation, en termes de technologie, en termes d'augmenter dans tous les rayons, et on a tellement peur qu'on se rassure en prenant des gens à la pointe. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça?
Moi, j'allais parler d'une autre peur. Moi, j'allais parler de la peur du vieillissement. Je trouve mon ressenti, c'est qu'on est quand même dans une société
où on
ne regarde pas le vieillissement, on a peur de vieillir, on le sait bien. Hein, il faut toujours... C'est pour ça que là, les femmes, on a une double peine. Parce qu'en plus, la ménopause, etc., donc ça vient ajouter encore cette couche-là. Et c'est vrai, quand on voit dans des enquêtes que les dirigeants de plus de 50 ans sont plus violents en termes de stéréotypes envers les seniors que les salariés eux-mêmes, et même que les jeunes salariés, on se dit, est-ce que c'est pas simplement le miroir qui leur est renvoyé aussi de la vie qui passe et du parcours de vie et de la peur en fait d'arriver quelque part à la fin d'un parcours de vie qui devrait être naturel. Enfin, il y a quand même une question, j'ai l'impression, parce que dans les sociétés orientales où le vieillissement est beaucoup plus apprécié, les seniors sont très appréciés.
C'est la sagesse.
Voilà, c'est la sagesse, l'expérience, etc. Parfois, j'ai le sentiment qu'on a perdu un peu en fait la valeur justement de cette, des anciens, etc.
Alors moi, j'aime bien Frédéric Cintra parce que on va quand même terminer, terminer pas l'émission, mais entamer cette dernière partie d'émission, si vous le permettez, avec des conseils, puisque nos auditeurs et nos auditrices chouchous qui sont dans cette situation, qui vraiment, et on pense à eux très très fort, ont plus de 50 ans et n'y arrivent pas, ne s'en sortent pas, pensaient que ça allait être simple, vu effectivement, étant donné leur apparente confiance en eux, concernant leur capacité, leur domaine de compétences, leur champ de compétences, etc. Patatras, tout le monde descend du train. Frédéric Cintra, vous dites par exemple, obtenir un diplôme pour gagner en estime de soi et progresser, c'est une bonne idée. Par exemple, vous le disiez tout à l'heure, mais ce genre de... Il faut maintenant, il faut chercher des... là où on peut se revaloriser.
Oui, alors moi, à la différence de mes deux collègues, je ne suis pas une experte du sujet sur l'analyse, mais plutôt j'ai recueilli des témoignages. J'ai recueilli des témoignages qui donnent de l'espoir et qui montrent qu'il y a différentes façons de se réinventer. Et j'ai notamment dans mon livre eu l'occasion d'interviewer plusieurs femmes, dont deux. L'une m'a dit, moi j'ai passé un master 2 quand j'avais 52 ans parce que j'avais dû interrompre mes études. Et toute ma vie, en fait, je me suis dit, dans ma famille, on avait passé des études, on avait passé des examens. Moi, je devais avoir un bac plus 3, tout le monde avait un bac plus 5, et en fait j'ai trouvé la nécessité justement de passer mon master 2 à ce moment-là en cours du soir, et je l'ai eu, et du coup j'ai coché une case.
Intéressant.
Une autre personne que j'ai croisée, moi je faisais des cours de danse, et j'ai vu une des amies qui m'a dit dans un supermarché, Frédéric, il faut que je t'annonce, je viens d'avoir mon bac, et en fait elle avait arrêté en seconde, et pour elle, pour ses enfants, pour son mari, elle avait repris et ça n'a pas changé de job. Elle n'était pas en recherche d'emploi. Elle a continué son job. Mais l'image qu'elle avait d'elle-même, l'assurance et ce qu'elle a et son rayonnement changeaient parce qu'elle avait obtenu son diplôme en tant que tel. Il ne servait pas nécessairement, mais pour elle, c'est extrêmement important. Autre exemple, j'ai toujours dans les témoignages, une femme qui travaillait dans la communication qui s'était rendu compte que ce qu'on apprenait, ce qu'elle avait appris dans son bac plus 5 il y a plus de 20 ans ne correspondait plus aux besoins de l'entreprise. Donc elle avait besoin de se rassurer par un diplôme et également d'acquérir des compétences. Et elle a passé également un master en stratégie digitale à plus de 50 ans. Donc en fait, on a tous ces exemples qui montrent que ça demande de l'engagement, ça demande du temps.
C'est du boulot. Mais...
c'est des forces, c'est sortir d'une zone de confort. Ça peut être pour soi, ça peut être pour son employabilité, ça peut être éventuellement pour faire un pas de côté. On parlait d'un pas de côté avec Frédéric tout à l'heure dans l'entreprise, mais ça peut être aussi pour avoir une compétence complémentaire, voire pour un certain nombre de plus de 50 ans qu'on peut côtoyer, de se dire c'est le moment éventuellement de prendre des risques, alors soit parce qu'on a l'intention de le faire, soit parce qu'on le subit et qu'on ne trouve pas de job, de se lancer dans l'entrepreneuriat.
Alors on n'est pas tous faits pour ça, parce que ça a été c'est en général très conseillé. Didier Goodman ici présent l'avait déjà évoqué, cette question-là. C'est facile de dire vous avez qu'à être entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour ça.
C'est
une option.
Ça peut être une prise de risque.
Voilà. One of these mornings, Moby, on se retrouve juste après.
Quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Won't be very long.
Pourquoi c'est difficile ? Est-il si difficile de trouver un travail après 50 ans ? Faut-il se reconvertir ou pas ? Voilà des questions que nous posons aujourd'hui dans cette émission Quête de sens en compagnie de Frédéric Cintra qui est venu avec son ouvrage Réentreprendre sa vie après 50 ans chez Erol. Elle qui a remporté beaucoup de prix il y a quelques années, qui a quitté un emploi de cadre supérieur pour devenir entrepreneur. Frédéric Jesque qui a été dirigeante pendant 30 ans au sein de groupes, médias et autres services d'intérêt général et qui est l'auteur de cet ouvrage « Le choc des générations n'existe pas » chez Erol et qui préside l'association Senior for Good. Et enfin Didier Gutmann, coach et conférencier qui a publié plusieurs ouvrages dont « Je ne suis pas si bien, je ne suis pas bien au travail, je change quoi chez Erol et trouver sa place au travail » chez le même éditeur. Effectivement Didier Gutmann, donc la réaction peut-être à ce qui a été évoqué, sur les options, les outils maintenant qu'on nous donne à nos auditeurs qui attendent ça avec impatience de votre part.
Bah, je crois que pour ceux qui sont effectivement dans cette situation-là, qui ont plus de 50 ans, qui cherchent du travail ou qui imaginent qu'ils vont avoir besoin d'en chercher, moi je dirais trois choses là. La première, c'est d'abord surtout, ne surtout pas croire que c'est impossible. Il y a une question quand même de configuration intérieure. Le problème d'une émission comme celle-là, c'est que d'une certaine manière, elle renforce l'idée que justement, après 50 ans, c'est difficile. Or, ouais. Même si les statistiques que Frédéric Jesque, tu connais bien, sont parfois cruelles, est vrai, les questions de place individuelle au travail sont toujours des questions individuelles, donc ce ne sont jamais des questions statistiques. Donc si moi je cherche du boulot et que je porte quelque chose d'important, il doit y avoir une place pour ça. Mais plus j'en suis convaincu, plus il y a de chances qu'il y ait une place pour ça.
Ah ouais,
plus okay. Je vais aborder la question en me disant que non, de toute façon, ce monde, c'est un monde
jeuniste,
c'est un monde cruel, de toute façon, il n'y a pas de place pour les plus de 50 ans. Plus je vais arriver en entretien de recrutement amer, inquiet, en doute, etc., plus ça va être difficile. Donc plus on va... Il y a une phrase de Pagnol que j'aime bien, qui est classique dans le monde du coaching, qui dit « Tout le monde savait que c'était impossible. Un jour est arrivé un ignare qui ne le savait pas et il l'a fait. » Donc plus vous allez arriver... Et c'est vrai à tout âge, là aussi. Hein, j'accompagne des gens de 25 ans, comme ça, qui ont du mal à trouver du travail parce qu'ils ne croient pas suffisamment en eux. Ils croient qu'ils ne vont pas trouver de travail. Si je rentre dans un entretien de recrutement en croyant que je ne vais pas trouver de travail, je n'en trouve pas. Si je rentre dans un entretien de recrutement en étant persuadé que je vais en trouver... La probabilité que j'en trouve augmente considérablement, ouais. Quel que soit l'âge.
Comme c'est l'univers, une espèce d'accord de l'univers.
Oui, bah oui, on crée. La pensée est créatrice, donc je crée mon environnement.
Ouais.
Donc plus je vais créer du positif, plus je vais porter du positif, plus je vais créer du positif.
Ouais.
Donc c'est la première idée, c'est celle-là. C'est que même si vous avez 57 ans, ne croyez pas que ce n'est pas possible. Ne serait-ce que parce que plus vous allez le croire, effectivement, moins ça va être possible.
C'est là où Frédéric Cintra est intéressant dans l'évocation de sa suggestion. De pourquoi pas se lancer dans un master, dans une formation XYZ, pour se rebooster, se redonner confiance en soi.
Je rajouterais également, parce que quand on passe l'entretien, c'est qu'on a déjà eu la chance d'avoir un CV qui a été retenu. Une autre femme que j'avais interviewée dans mon livre m'a confié, attention, l'erreur, ou plutôt le risque, c'est quand on a une expérience, c'est de tout écrire. En fait... Non, il ne faut pas tout écrire. Il faut écrire dans un CV ce qui va intéresser l'entreprise qui nous recrute. Parce que s'il y a beaucoup trop de choses, parce qu'on a une expérience riche et qu'on est content de valoriser, ça peut être un handicap.
Pourquoi ?
Il ne faut mettre dedans. Ça ne sert peut-être pas à l'entreprise. L'entreprise, qu'elle veut savoir, c'est si vous êtes adapté au poste qu'elle a à pourvoir. Donc vous allez recueillir, vous allez extraire ce qui correspond particulièrement aux besoins du poste auquel vous aspirez. Et peut-être que ce que vous avez fait de telle année à telle année, qui n'a rien à voir, voire qui peut un peu effrayer en se disant « Oh là là, mon Dieu, cette personne ne sera pas adaptée parce qu'elle a eu des responsabilités trop fortes, ou, etc. » ou « c'est pas tout à fait ça », va être un obstacle plutôt qu'un atout pour le poste. En fait, il faut adapter son CV. Alors, c'est facile à dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent vont dire « Non, non, mais moi, j'avais fait tout ça et c'est pas pour autant, je n'ai pas été recrutée ou je n'ai pas été en entretien. » Mais en tout cas, c'est élaguer ce qui ne concerne pas directement le poste et mettre en exergue les compétences et l'expérience ouais. Par rapport à ce qu'on vise.
Frédéric Jess, qu'est-ce que vous conseillez de votre côté aux personnes qui viennent vous voir dans votre association,
alors,
par exemple
plusieurs choses, ça va parler à monsieur, c'est déjà de travailler sur ce que j'appelle, moi, j'en parle dans mon livre, la PPVU, j'appelle ça la proposition personnelle de valeur unique, hein, empruntée au marketing, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce qui fait ma singularité, qu'est-ce qui fait que ça peut être moi plutôt que quelqu'un d'autre. Et cette PPVU, c'est pas que les compétences hard skills, c'est pas que les soft skills, c'est aussi son histoire de vie, ses succès, ses échecs, le storytelling, comme on dit aujourd'hui, en fait, de son parcours professionnel. Parce que plus on va clarifier cette proposition de valeur, plus, bah, du coup, dans le CV, elle sera claire aussi, plus en entretien, elle sera claire, et plus on sera aligné, pour reprendre vos mots, sur ce qu'on a envie de porter. Donc ça, c'est la première chose. Il y a vraiment un travail quand même sur
dans
soi.
Dans le storytelling, il y a quelque chose... Il faut qu'on raconte un peu son tempérament, et puis ça... Comment peut-on dire ? Vous voyez, c'est très intéressant ce que vous venez d'évoquer, Frédéric. Il faut mettre en valeur... qui l'on est, en fait, avec les échecs, notre rapport à la vie. Quoi,
sa valeur ajoutée personnelle, sa singularité. Chacun est unique et va apporter quelque chose d'unique à l'entreprise. Et donc, évidemment, en fonction, bien sûr, du poste à pourvoir sur lequel on va postuler, on va aller chercher dans notre histoire de vie nos succès et peut-être aussi nos échecs et la manière dont on a rebondi face à ces échecs qui vont démontrer qu'on a les qualités pour que le recruteur puisse se projeter dans l'avenir avec nous. Mmh. Parce que c'est vrai que ça peut être une difficulté quand on est senior, on a des très longs CV, on a des très belles expériences, on a 30 ans de parcours professionnel derrière soi, on a tendance à raconter notre vie. Et un recruteur, il faut savoir qu'aujourd'hui, les RH, souvent d'ailleurs dans les premiers entretiens, c'est parfois même les alternants, hein, donc ils ont 23 ans, 25 ans, et donc quand vous avez devant vous quelqu'un qui a l'âge de votre papa et qui commence à raconter ce qu'il a fait pendant 30 ans, on a quand même un petit peu de difficulté à se projeter en se disant, bah, cette personne est la bonne ou le bon candidat pour le job.
C'est ça la réalité.
Il y a déjà ça.
Recrutement de toute façon, il faut piloter par le positif. Hein, d'entretien, c'est un conseil que je donne très souvent.
Ouais. Dans la vie.
Là aussi, quel que soit leur âge. Ouais. Mais en recrutement, c'est encore peut-être plus évident. Ça va se jouer de façon encore plus.
Peut-être pour parler des échecs, il faut parler de ses échecs ou pas alors ? Parce qu'il faudrait qu'elle a dit qu'il fallait parler de ses échecs.
Bah, s'ils sont féconds, s'ils sont structurants.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Il faut les travailler, il faut faire une histoire.
Oui, mais ce qui est important, c'est de rentrer dans l'entretien de recrutement avec conscience de ses vraies envies, de ses vraies motivations, de ses vraies qualités. Donc effectivement, de quelque chose que Frédéric appelle la PVU.
Et c'est là où... allez-y.
Ouais. Et parce que notamment des gens plus seniors peuvent avoir beaucoup de qualités importantes, intéressantes, fécondes, structurantes, qui ne seront pas possibles pour des gens plus jeunes. Une capacité à gérer les conflits, une capacité, je veux dire, d'ouverture, une maturité dans les situations difficiles, une capacité à encaisser l'échec, des choses qui sont fabriquées par la vie plus que par l'âge. Mais dont il faut être conscient quand on rentre dans un entretien de recrutement. Plutôt de se dire, si on rentre dans l'entretien de recrutement en disant oh là là, je suis vieux, et puis en plus j'ai un CV qui est super long, et puis je vais les ennuyer, et puis je sais pas ce qu'il faut que je raconte ou que je raconte pas. Non, il faut rentrer dans l'entretien de recrutement en se disant voilà ce que j'aime profondément, voilà ce que profondément je sais faire, voilà ce dont profondément j'ai envie, et c'est ça qui doit piloter l'histoire que je vais raconter.
Et si tout ça nous a fatigués, mais qu'on joue tout pour la gagne, alors on pense certains, en plus il y a des tempérament comme cela. La reconversion peut être une bonne idée. Didier Goodman, vous m'en parliez hors antenne, j'aimais bien votre façon de voir les choses.
Bah, ça peut être une bonne idée, mais c'est souvent une d'autant meilleure idée qu'on va aller chercher en reconversion quelque chose qui nous habite profondément depuis longtemps. C'est-à-dire que les meilleures reconversions ne sont en réalité pas des reconversions, ce sont des accouchements tardifs.
Passage à l'acte, tardif.
De dimensions importantes qu'on a tenues en respect jusque-là.
Je rêvais d'être fleuriste,
Si j'en ai toujours rêvé, si je me suis toujours intéressé aux fleurs, si d'ailleurs je me suis formé depuis longtemps, si j'ai des balcons remplis de fleurs, alors peut-être que devenir fleuriste, ça va faire sens. Si par contre je m'y suis jamais intéressé, si en réalité ça correspond profondément à rien à l'intérieur de moi-même, alors la reconversion risque d'être réellement compliquée.
Et si on le fait pas par peur de pas gagner assez d'argent, de ne pas, je ne sais pas moi, de ne pas répondre aux injonctions sociétales.
Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, à un moment donné, si on perd son job traditionnel dans une grande organisation traditionnelle à 50 ans et plus, il va falloir revenir sur le marché du travail avec une forme de souplesse. Parce qu'une des erreurs possibles, un des risques possibles, c'est la rigidité statutaire.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que si je pense que j'avais un certain niveau, j'avais un certain statut, et que c'est ça que je dois retrouver, alors là, il y a effectivement un risque que ça ne se produise pas comme ça.
D'accord.
Il faut être capable de retravailler son employabilité régulièrement tout au long, tout au large, et d'être capable de faire preuve de souplesse. Peut-être que hier, j'avais une très très belle position, peut-être que cette position-là, je ne la retrouverai jamais, et que ce n'est pas grave. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut que je me réaligne autrement. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui m'importe réellement doit pouvoir me conduire dans des positions qui sont peut-être moins brillantes que ce qu'elles étaient hier, mais qui sont celles qui sont juste aujourd'hui.
Ouais, Frédéric,
y a des peurs à craquer, des croyances à écraser. Hein. Enfin, moi, je l'ai vécu.
Ça peut prendre du temps, ça. Hein. Ça peut prendre du temps.
C'est vrai que c'est pas simple. Hein. Moi, je me souviens, à 57 ans, moi, pour le coup, j'avais retrouvé quand même un CDI après mon aventure désagréable. Là, j'avais un très joli poste dans un cabinet de conseil, un très beau fauteuil. J'aurais pu rester jusqu'à la retraite. Le jour où je me suis dit, je me sens à l'étroit, au bout de quelques mois, non, ça va pas, j'ai besoin d'autre chose. Voilà, puis des blessures de vie, hein, la perte de ma petite sœur, etc., avait aussi poussé en fait cette envie de liberté. Il a fallu que je craque, hein, ma peur des finances quand on a un bon niveau de rémunération en direction générale.
C'est tout à fait humain.
Se lancer entrepreneur à 57 ans, ça fait sympathique, mais bon, voilà, on a encore des enfants qui font des études, etc.
C'est ça.
Donc il faut craquer un peu ces peurs-là. Les croyances aussi, est-ce que je vais être capable ? Est-ce que je vais avoir des clients ? Et puis le statut, vous avez une étiquette, vous représentez une organisation, le lendemain vous n'êtes plus rien, il faut tout reconstruire. Donc c'est certain qu'il y a des croyances et des peurs à lever, et c'est pour ça que ce travail sur soi dont on parlait en début d'émission, me semble-t-il, est très important à tout âge.
Et bien, je vous remercie, les amis, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à vous trois. Frédéric Cintra, vous êtes à merveille complété. Je rappelle le titre de votre livre, Réentreprendre sa vie après 50 ans, c'est possible, parce que l'ambition des femmes n'a pas d'âge, c'est beau, chez Dunod. Merci Frédéric Geist, Le choc des générations n'existe pas, chez Erol. La preuve dans ce livre est Didier Gutmann. Je ne suis pas bien au travail, je change quoi, chez Erol. Merci les amis, et haut les cœurs.
Merci,
hein.
Merci.
On pense bien à vous, et on vous embrasse chaleureusement, les seniors, les plus de 50 ans, tout court. Vous allez y arriver, vous allez trouver le job de vos rêves, j'en suis sûre. Bonne soirée à tous.